Bonjour Nicolas Boutier.
Bonjour Guylaine.
Nicolas Boutier, votre éditorial de ce journal protestant pour la région Cévennes, Languedoc-Roussillon, autrement appelé le CEP, marque votre première année comme rédacteur en chef. Alors vous témoignez là du bonheur d'être à ce poste, Nicolas Boutier.
Eh bien oui, c'est vrai, c'est un bonheur. C'est une découverte pour moi, parce que je n'étais pas vraiment appelé à ce poste-là, au hasard des rencontres et des amitiés. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à ce poste, mais ça a été une véritable découverte. Découverte des gens, découverte d'autres organismes de l'Église, découverte de comités de rédaction, du conseil d'administration, tous ces gens avec qui je travaille. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on a l'impression qu'on est loin des gens, parce qu'on est dans notre journal à le fabriquer tous les mois, mais on est quand même obligé d'aller à la rencontre pour pouvoir réaliser ce journal. Et à chaque fois, c'est des vrais coups de cœur. À chaque fois. Il n'y a jamais eu de déception, aucune, en un an. Et j'espère qu'il n'y en aura pas.
On continue.
On continue, ah oui.
Alors, les rencontres, il y en a dans ce dossier du mois de juin, non seulement le dossier, on va le voir, qui est consacré à l'accueil, mais aussi plein de rencontres qui ont été effectuées pour l'élaborer, ce dossier, ce numéro. Et donc, je le disais, le dossier de ce numéro du mois de juin, c'est l'accueil. L'accueil en chantier, dites-nous.
Oui, c'est vrai que cette année 2016 et 2017 ont été très marquées par l'accueil, mais l'accueil des réfugiés, de tous ces courants migratoires qui ont, bouleversé l'Europe. Et on s'est rendu compte, le journal l'a relayé très souvent, continue à s'en faire l'écho, mais on a décidé de revenir à l'accueil, qu'est-ce qui se passe chez nous finalement ? Et peut-être plus particulièrement dans notre église. Comment on accueille? Comment ça s'organise? Comment on apprend à accueillir? Est-ce qu'on sait accueillir? Et quelle forme peut prendre cet accueil? Parce qu'il y en a des multiples et des variés. Quand on étudie le dossier, c'est assez impressionnant toutes ces formes d'accueil qui existent.
Alors vous, Nicolas, vous vous êtes intéressé aux villes-refuges.
Eh oui, alors ça, je dois avouer que c'était un peu une grande découverte. Je connaissais de très loin le principe des villes-refuges. Et... J'ai découvert ce qui a été mis en place au début des années 90 pour protéger en fait les écrivains qui étaient menacés dans leur pays. Et donc des villes ont décidé de les accueillir. Alors ça a duré pendant, je crois, une grosse dizaine d'années où des écrivains qui étaient en danger dans leur pays étaient accueillis dans une ville, ont financé leur logement, ont accueilli aussi la famille et ils pouvaient comme ça librement continuer à écrire leurs œuvres. Mais ce principe de l'accueil, de ville-accueil, a été repris justement avec l'arrivée des migrants. Et il y a des villes comme Barcelone, par exemple, ou d'autres, qui ont décidé de devenir ville-refuge, c'est-à-dire qu'ils étaient ouverts à l'accueil de tous les migrants qui voulaient venir chez eux. Et en fait, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que ce n'est pas nouveau, et le principe de la ville-refuge n'est pas un concept neuf. On le voit déjà apparaître dans la Bible, où il y a six cités qui sont là pour accueillir les gens en difficulté. Et tout au long de l'histoire, même de notre histoire nationale, il y a des villes-refuges qui sont franches, qui rendent libres, et ça a traversé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a pris un peu le monopole et a mis la main sur la gestion des citoyens. Les villes ne sont plus aussi indépendantes. Mais certaines villes ont décidé quand même d'aller à l'encontre et puis de se dire nous sommes des villes d'accueil.
Mais ça reste toutefois dans une légalité, j'imagine, nationale.
Oui, enfin, l'égalité.
Oui, en termes de loi.
Non, en fait, voilà, ça reste tout à fait légal. Elles accueillent les gens qui sont en difficulté. Puis c'est surtout leur trouver des logements. Comment les loger décemment, pouvoir mettre les enfants dans les écoles. C'est ça aujourd'hui qui est mis en place dans ces villes-refuges.
Montpellier en fait-elle partie ?
Bonne question, parce qu'il y a une liste.
Je ne l'ai pas vu citer votre liste.
Mais ce n'est pas impossible. Mais il y a des villes... Il y a des listes de villes, j'ai donné quelques exemples, mais il y a des listes de villes très importantes, en fait. Et dans toute l'Europe, c'est ça qui est du nord de l'Europe au sud de l'Europe.
Et puis ça demande, est-ce que ça demande une déclaration ?
Non,
c'est juste
la ville se déclare ville-refuge ou ville d'accueil, mais voilà, c'est elle qui prend la décision. Et c'est vrai que Barcelone reste assez symbolique, puisque c'est... Il y a le mouvement... Le maire est issu du mouvement Podemos, et c'est aussi ça, je pense, qui a conduit Barcelone à prendre cette décision, et d'autres villes qui ont suivi sans faire partie du même mouvement politique, j'allais dire.
Alors, dans ce numéro du mois de juin du CEP, la dimension nationale du protestantisme et de sa tradition d'accueil est bien représentée, je trouve. Alors, vous citez par exemple la Maison Verte de la Mission Populaire Évangélique à Paris dans le 18e, le T07 à Toulouse. Vous donnez l'exemple d'une dame âgée de 90 ans qui accueille des étudiantes dans sa maison à Bourges. Une expérience d'une maison d'hôte dans les Vosges. Alors là, on dépasse. Vous accueillez à votre tour, vous, journal régional, toutes ces expériences d'accueil au niveau national.
C'est impressionnant parce qu'on se dit dans un monde où on a perdu toutes les relations avec le voisin. On se dit que dans les villages, les gens ne se parlent plus. Et en fait, il y a des expériences qui se vivent qui sont absolument hallucinantes. Alors, il y a des situations d'église. Vous parliez de la mission populaire. Voilà, c'est plutôt une situation d'église. Et c'est peut-être là où on l'attend aussi, l'église, dans cette vocation d'accueil, de diaconie. Voilà, ça reste logique. Mais quand une dame âgée, qui est seule, se dit, ben, j'ai une chambre libre, je vais accueillir une étudiante, là, la démarche, elle est différente. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas juste je l'accueille pour l'accueillir. Il y a de l'échange. C'est-à-dire que la dame âgée a une chambre à disposition, mais elle demande à la jeune fille, en contrepartie, de l'aider dans certaines tâches du quotidien. Et quand on lit l'article, ce qui est assez intéressant, c'est finalement ça va beaucoup plus loin. Et l'échange, il devient beaucoup plus fort et beaucoup plus riche entre les deux personnes. Et c'est un peu aussi le même principe dans les familles d'accueil. Ces familles d'accueil qui décident d'accueillir soit des enfants en difficulté, qui sont placés chez eux pour la DAS. C'est un travail, soit, mais il y a quand même une démarche familiale derrière qui est assez importante. C'est pareil pour ceux qui, maintenant, c'est un nouveau principe qui est en train de voir le jour. Au lieu de mettre les personnes âgées en maison de retraite, il y a des familles d'accueil pour personnes âgées qui les accueillent chez eux, qui s'occupent d'eux jusqu'à la fin. Et la même chose pour les personnes handicapées. Donc il y a vraiment, je trouve, cet accueil qui devient... dans un monde soi-disant individualiste, on retrouve des choses et des expériences qui sont vraiment très riches.
C'est ça, vraiment au niveau individuel, des démarches finalement qui sont pas du tout télécommandées par des décisions qui nous dépassent, non. C'est vraiment une démarche personnelle.
C'est vraiment une volonté d'aller à la rencontre de l'autre et d'accueillir l'autre. C'est assez impressionnant.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103 points à Nîmes, une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Le dossier du mois, nous l'avons dit, Nicolas Boutier, c'est l'accueil que nous avons déployé tout en ne donnant pas toute sa richesse, mais quelques pistes de votre travail. Un travail que vous avez vraiment élargi à un niveau, je trouve, cette fois-ci, peut-être plus que d'habitude encore, à un niveau national.
Oui, et peut-être...
En prenant des exemples...
Et hors église, pour
une fois. Hors église, voilà.
Alors, ça reste hors église, mais avec, je pense, un regard protestant. C'est-à-dire que, en effet, c'est une dame âgée, par exemple, qui accueille une étudiante ou des familles d'accueil qui sont salariées pour accueillir des enfants en difficulté. Mais c'est nous, en tant que protestants, comment on considère ça? Et forcément, on trouve que ces expériences sont formidables et qu'il faudrait les renouveler plus souvent, il faut en connaître encore plus. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que sur un sujet un peu national et général, on apporte un regard un peu plus pointu.
Absolument, c'est vraiment votre ligne que vous tenez en permanence.
Exactement.
Ce regard-là. Et c'est important. Dans votre éditorial, vous vous rappelez que vous allez régulièrement à la rencontre de paroisses de la région. Et cette fois-ci, pour ce mois de juin 2017, vous avez rencontré la présidente du conseil presbytéral de Vergès-Vistranc.
Oui. Alors, on dit une dame, voire une jeune dame, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que dans notre église, on ne rencontre que des personnes âgées, mais pas que. Il y a des jeunes qui sont engagés, vraiment engagés, parce que quand on arrive au président d'un conseil, c'est quand même un sacré engagement. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle a autour de 35 ans. Trois enfants. Trois garçons. Pour vous donner une idée, le dernier, son surnom, c'est Boucan Premier. Donc ça donne un peu l'ambiance générale de la famille. Très énergique. Vraiment, elle est vraiment très gentille. Et voilà, ce qui est assez intéressant, c'est... Elle est issue d'une famille protestante, en partie, parce que notre partie est plutôt catholique. Et elle a été élevée dans un protestantisme, on va dire, plutôt traditionnel, jusqu'au moment là, à l'adolescence. Ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à faire, je ne sais pas si je crois en Dieu, donc j'abandonne tout. Et petit à petit, les rencontres avec un pasteur, préparation de son mariage, des questions... Moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa révélation, c'est le jour où elle s'est rendue compte qu'elle voulait prier et qu'elle ne savait plus le Notre Père. Et elle s'est dit, là, ça ne va plus, je perds tous mes repères, où vais-je? Donc, elle s'est repenchée un peu sur tout ça. Et très vite, finalement, elle est retournée à la rencontre de Dieu. Et naturellement, chez elle, il fallait qu'elle s'engage. Donc, elle s'est engagée dans son église et elle essaie de participer à peu près à tout. Alors, c'est vrai que l'avantage qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle est en congé parental. Son congé parental s'arrête, je crois, à la fin de l'été. Donc, elle va reprendre son travail. Mais pour elle, il n'est pas question d'abandonner son engagement dans l'église. Elle sait qu'elle va devoir le ralentir. Donc, elle a une coprésidente qui pourra prendre le relais. Et comme ça, voilà, elle continue à s'engager. Mais c'est assez... finalement, on a des expériences de jeunes. On fait toujours des portraits de personnes âgées qui ont un grand vécu. Mais une jeune femme de 35 ans a aussi un vécu, a aussi des rencontres et a aussi des choses à dire.
Et ce que j'ai pu aussi retenir dans cet article, c'est qu'elle propose des choses nouvelles. Un culte spécial pour l'ensemble, qui réunit beaucoup plus de paroissiens que lorsqu'elle se contente de faire un culte paroissial.
C'est ça. Je pense qu'elle a peut-être amené de la jeunesse. Alors c'est un travail qui n'est pas, elle l'a pas fait seule. Elle a aussi son conseil et puis il y a deux pasteurs autour d'elle sur l'ensemble avec qui elle travaille. Mais qui sont jeunes aussi. Oui. Elle essaie de fédérer tout le monde. C'est-à-dire que elle ne veut pas que les parents et les enfants soient exclus, mais elle veut pas non plus que les personnes âgées soient exclues. Le but est que tout le monde se rencontre. Donc on maintient le culte du dimanche matin. Ça c'est le culte traditionnel où tout le monde se retrouve. Et ils ont tenté des expériences nouvelles. Donc des cultes plus en musique, ou des cultes d'ensemble, forcément, avec énormément de musiciens, donc ça attire, c'est plus joyeux, c'est plus vivant, on chante beaucoup plus. Et elle s'était rendue compte que lors des kermesses pour la paroisse, les enfants étaient complètement exclus, aucun jeu, aucune activité. Et donc elle a réinstauré tous ces jeux qui existaient parfois, pour redonner une nouvelle dynamique et redonner leur place à tous les enfants. Et apparemment, c'est des petites étincelles comme ça qui fonctionnent. Et puis, c'est des expériences qui sont toujours bonnes à prendre pour les autres paroisses.
C'est pour ça qu'il faut lire le CEP. Alors, mais ce n'est pas que du jeunisme, le CEP. Loin de là.
Non, pas que.
Parce que parmi les nouvelles régionales, vous pointez l'exposition sur la guerre 14-18 au Vigan, qui retrace justement l'impact de cette guerre dans le pays viganais.
Oui, alors c'était... C'était une demande, en fait, je ne suis pas allé chercher l'article est venu à moi. Il y a une grande exposition qui a été faite, et alors ça, c'est vrai que je dois avouer, ça m'a beaucoup intéressé, parce que je m'étais posé la question, en disant, mais on est dans le centenaire de la guerre de 14-18, et ça va durer encore jusqu'en 2018. Au tout début, en 2014-2015, on en a beaucoup parlé, puis maintenant beaucoup moins, ça s'est un peu étiolé.
Et on a eu 2017, hein.
Oui,
on est remonté très très loin dans le temps.
On a les 500 ans de la réforme. Et même au niveau national, sans parler d'église,
oui,
c'est vrai que la guerre
juste.
De 14 est un peu oubliée. Alors qu'il y a des choses assez extraordinaires qui ont été faites. Et là, je trouvais plutôt intéressant de faire un petit rappel. Voilà, il y a 100 ans, cette guerre qui a été particulièrement violente, particulièrement meurtrière. Et tout ce groupe autour du Vigan, un groupe d'historiens qui s'est réuni pour faire cette exposition au musée Cévenol au Vigan, qui est visible tout l'été. Donc si vous avez l'occasion, allez-y, allez voir l'exposition et allez voir le musée qui est vraiment très intéressant.
Donc des photos, des commentaires...
Des photos, des lettres,
des
objets de gens qui ont pu être récupérés. Je pense beaucoup de photos. Je ne me suis pas encore déplacé, je dois aller la voir, mais je ne me suis pas encore déplacé.
Ouais. Une histoire locale qui rejoint
l'histoire
nationale
exactement.
De la guerre. Ouais. Par ailleurs, vous mentionnez d'ores et déjà la manifestation protestant en fête en octobre 2017 à Strasbourg. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ces 3 jours festifs qui vont se dérouler à Strasbourg. Et vous commencez par en parler à travers le programme Jeunesse.
Un programme riche, c'est assez impressionnant. Bon, c'est un énorme événement au niveau national pour notre église. Et donc, c'est vrai qu'il y a une place qui a été faite à part pour les jeunes. Plusieurs bus partent de la région pour rejoindre Protestants en fête, qui aura lieu le dernier week-end d'octobre 2017, qui arrive. Et donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont organisées. C'est assez impressionnant. Donc, entre des jeux, des découvertes, l'apprentissage des textes bibliques, voilà, plein de choses comme ça qui sont plutôt enrichissantes. Et puis, de la musique, des passes qui leur servent à aller à toutes les activités. Enfin, c'est vraiment bien organisé pour les jeunes. Et j'espère que ce sera un grand succès.
Nous le souhaitons aussi. Ouais. Alors, donc j'ai un peu déroulé comme ça avec vous les articles qui m'ont alerté. Mais de votre côté, vous allez peut-être nous signaler des articles essentiels, fondamentaux qui m'auraient échappé. Nicolas Boutier.
Alors, essentiels et fondamentaux. Non, alors, on va faire plus un agenda.
Allons-y.
Il y a des choses intéressantes qui se passent dans notre région. L'association Abraham Mazel, qui est à Saint-Jean-du-Gard, donc ils ont racheté la maison Mazel, dans laquelle ils font des colloques et des conférences, organise leur colloque annuel sur « Résister à la peur » et qui va avoir lieu du 30 juin au 2 juillet. Donc, si vous voulez les renseignements, n'hésitez pas, allez sur le site leur site internet qui est abrahammazel.eu.
D'autant que l'inscription est libre et gratuite.
Et gratuite. Et
l'endroit. Participation aux frais.
Exactement. L'endroit est merveilleux, c'est très beau. Et en plus, vous pouvez vous baigner si vous avez trop chaud. Donc, il y a des choses.
Il y a un programme très intéressant sur les peurs. La peur du chômage, la peur du numérique, la peur de Donald Trump.
C'est ça. Non, non, mais.
La peur, voilà, toutes les dimensions de la peur qui sont explorées comme ça, avec un atelier d'écriture, si j'ai bien regardé.
Ouais, c'est
donc vraiment une grande, grande richesse pour la région.
Immense, oui. C'est vraiment un endroit où il y a, j'allais dire presque un bocal d'expérience, où il y a plein de choses qui se passent. Ça fait très longtemps. Et vraiment, c'est plutôt intéressant le programme qu'ils ont chaque année, à suivre vraiment et à ne
à
pas
suivre.
Oublier. Ouais.
Et là, c'est 30e édition, hein, on a dit.
Je crois.
30e, donc c'est aussi un bel anniversaire.
30e. Non, du 30 juin.
30 juin.
Et c'est les 29e rencontres.
Ah, 29e
l'année
rencontre.
Prochaine,
l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va être?
Autre événement, le 21 juin, à
Fête
Quissac,
de la musique.
Fête de la musique. Et Beau d'église à Quissac. Alors, c'est la paroisse, l'ensemble entre Gardon et Vidourle qui organise ça. Ils ont décidé d'aller à la rencontre des gens en se disant il faut qu'on sorte de nos temples. Et la fête de la musique est un bon moment. Donc, ils ont décidé d'installer sur la place du village, au milieu des autres stands, un stand d'église où on peut manger, boire, danser, s'amuser. Mais c'est l'église qui l'organise. Et donc, c'est aussi dans ces manières de témoigner de l'ouverture de notre église, d'être présent dans la société, dans ce qu'elle vit, et ne pas rester enfermé dans les temples. C'est vraiment assez intéressant comme expérience.
L'église hors des murs pour la fête de la musique.
L'église hors les murs pour la fête de la musique.
Bien. C'est là où vous serez, Nicolas ?
Sûrement. Tout le monde peut m'y retrouver. Le CEP aura un stand peut-être, qui sait.
Voilà. 21 juin, retrouver Nicolas Boutier à Quissac.
À Quissac.
Autre chose, Nicolas.
Et la dernière information, le CEP organise un grand jeu concours en partenariat avec le Lazaret. 11 week-ends à gagner au Lazaret pour 2 personnes.
Alors le Lazaret, rappelons-le, A7.
A7, centre familial vacances. En bord de plage, un endroit merveilleux.
Merveilleux, sous les pins.
Sous les pins, accès direct à la plage depuis l'endroit, une très bonne cuisine. Donc vraiment, il n'y a rien à dire, l'endroit est parfait.
Alors, mais il faut jouer pour gagner.
Et pour jouer, pour pouvoir jouer,
déjà.
Il faut s'abonner au CEP. Si vous ne vous abonnez pas, vous aurez peu de chances de gagner, voire aucune chance. Et alors, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est 3 tirages au sort, un en décembre, un en mars, un en juin. Le but.
Décembre 2017, donc.
Décembre 2017.
Mars 2018.
Et juin 2018.
Donc il faut patienter avant de pouvoir se rendre au Lazaret.
Il faut patienter. Mais on peut prendre son week-end quand on veut. Ça,
bien.
C'est bien. C'est pas. Si vous gagnez en décembre, vous n'êtes pas obligé d'y aller en janvier. Vous pouvez y aller pendant les périodes plus intéressantes. Donc plusieurs chances de gagner. Si vous êtes un ancien abonné, vous avez une chance de gagner. Si vous êtes un nouvel abonné, vous avez une chance de gagner. Mais ce qui est plus intéressant, si vous êtes parrain et que vous parrainez un nouvel abonné, vous avez 2 chances de gagner. Parce que normalement, vous êtes un ancien abonné. Donc, vous avez une chance de gagner. Et vous êtes parrain, vous aurez aussi une chance de gagner. Donc, n'hésitez pas.
Le marketing du CEP, là, j'en reviens pas.
N'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez vos amis et votre famille.
Alors,
vous pourrez gagner un week-end au Lazaret.
Alors, où est-ce qu'on s'abonne, Nicolas ?
Où est-ce qu'on s'abonne ? Vous pouvez.
Parce que ça, quand même, c'est important.
C'est important. Donc, vous pouvez téléphoner au 04 66 81 29 63, vous aurez Valérie au téléphone et elle vous dira comment vous abonner au CEP.
Est-ce qu'il y a un abonnement à prix préférentiel pour cette affaire ? Non.
Non,
on va pas cumuler
abonnement
les avantages.
Normal. Abonnement normal. Vous pouvez trouver le CEP aussi en général à la sortie des temples. Donc dedans, à l'intérieur, vous avez toujours un bulletin d'abonnement. Et voilà les moyens de nous contacter et de pouvoir vous abonner pour gagner un week-end au Lazaret.
Merci Nicolas Boutier.
Merci Guylaine.
On se revoit encore une fois avant les vacances ?
On va se voir avant les vacances pour le numéro d'été.
Pour le numéro d'été. Merci à vous.
Merci beaucoup Guylaine.
À bientôt.
À très bientôt. Au revoir.